qu'il y a des questions, des réactions?
Quand l'Évangile nous parle du péché contre l'Esprit, qui est le seul qui ne peut pas être pardonné,
ouais.
Ça a quelque chose à voir avec ce refus positif de Dieu que l'homme peut avoir et qui donc l'exclut.
C'est ce que disent les pères de l'Église. Quand ils parlent du désespoir, c'est le refus de la miséricorde jusqu'au bout. Mais c'est facile. Enfin, si vous voulez, ce que je veux pas vous faire peur sur la damnation, mais je me suis rendu en lisant les et même dans ma vie, je me dis, en fait, c'est facile. C'est facile de s'endurcir. Et c'est pour ça que le Christ nous, si vous voulez, parfois les propos forts de Yahvé ou la colère du Christ est vraiment surtout les enfants, mais fuyez, ça va vous abîmer. C'est surtout un réveil. Et effectivement, on peut fermer son cœur, ouais. On peut. Et je pense que par exemple, quand on ferme son cœur à la souffrance des autres, c'est un lieu aussi. Enfin, alors, vous voyez, c'est un. Alors, jusqu'au bout, le Seigneur peut venir toucher le cœur. On voit le. Il y a plein d'exemples. L'exemple de Pranzini qui refuse de se confesser, qui refuse tout jusqu'au bout, et tout d'un coup, et au moment de monter à l'échafaud, embrasse la croix. Si vous voulez, jusqu'au bout, le Seigneur va venir nous chercher. Mais c'est un appel justement à se laisser toucher. Oui. Et je pense que les pauvres, la fréquentation des pauvres, c'est le lieu où notre cœur peut se laisser toucher toujours. Pour nous-mêmes nous rendre compte que nous sommes des pauvres. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. C'est pas anecdotique dans la foi en fait.
Oui. Non, juste, vous aviez dit tout à l'heure, le diable souffre-t-il, vous avez dit.
Oui, il souffre. Oui.
Alors, pour moi, le diable, ce que je pensais avant, ce que vous disiez ça, c'est qu'il a fait. Lui, il jubile justement de faire tout. Il jubile de son état, en fait, contre Dieu. J'arrive pas trop à.
En fait, ce que je voulais dire, c'est que dans toute créature, il y a une soif de Dieu. Et dans les anges aussi. Oui, ils ont. En fait, fondamentalement, ils ont été créés pour voir Dieu. Les anges bons sont rentrés. Alors ça, je peux passer des heures dessus, parce que l'angélologie, c'était une matière que j'ai enseignée au séminaire. Mais l'ange bon, il s'est ouvert dans une action de grâce au projet de Dieu. Et a traversé cette espèce d'épreuve de la foi dans sa création. On ne sait pas ce que c'est, mais il est rentré dans la gloire. L'ange mauvais s'est cristallisé sur lui. Il a dit, je m'aime, je ne veux pas dépendre. Mais en fait, fondamentalement, il est fait pour Dieu. La source de son bonheur, c'est Dieu. Si vous voulez, mais parce que lui aussi, il cherche le bonheur.
C'est les états qu'on traverse aussi nous, en quelque part. Enfin,
oui, sauf que dans le. Enfin, sauf que le démon, lui, c'est oui. Définitif et c'est toujours. Et c'est, mais chez nous, il y a les deux. Il y a une soif de Dieu et en même temps. Et ben parfois, on met Dieu dans un téléphone portable, dans un compte en banque, et on se trompe de Dieu. Et on devient esclave d'une idole. Mais fondamentalement, Dieu nous a fait pour lui. Il n'y a que lui qui peut combler le cœur de l'homme et des anges. Et donc lui aussi, il est fait pour Dieu, mais il le refuse de tout son être.
Et est-ce qu'un jour, éventuellement...
C'est ce qu'on posait comme question, parce que c'est ce que disait notamment Origène, qui est un père de l'Église très intéressant, mais qui justement, en tout cas ses disciples, on parlait d'apocatastase en se disant, mais c'est pas possible qu'il y ait dans la création un refus définitif. Et en fait, saint Thomas dit, si, parce qu'en fait, ça manifeste à la fois la miséricorde et en même temps la justice divine. Il y a une justice. Et si vous voulez, l'enfer manifeste une chose, c'est que c'est pas le mal absolu, l'enfer, c'est qu'il y a une justice même dans le mal. C'est très. Pour moi, c'est un mystère qui est très surprenant, on balbutie, hein. Mais l'enfer est éternel, c'est ce que dit Jésus dans le feu éternel préparé pour Satan et ses anges. Et encore une fois, c'est pas Satan qui refuse, c'est pas Dieu qui dit, j'arrête de te donner ma grâce. Mais c'est que, en fait, cet état-là est un état, l'état du choix au moment de la mort est un état définitif où le damné refuse Dieu pour toujours, mais en permanence. C'est lui qui ne veut plus. J'irai même, je vais même être un peu violent, je vais vous dire que Dieu continue d'aimer les damnés et Satan. Parce que si Dieu cessait d'aimer Satan, en métaphysique, Satan disparaîtrait en fait. Parce que les dons de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu aime, il aime pour toujours. Et si Satan est encore dans l'existence, c'est-à-dire qu'il existe encore, c'est parce que Dieu l'aime et que Dieu ne reprend pas son amour. Dieu est ce que Satan est devenu, mais Dieu aime toujours ce qu'il a créé. Et il les maintient dans l'être. Mais n'empêche que sa, voilà, sa justice se manifeste aussi dans, ce, dans le fait que bah, le mal n'a pas le dernier mot. Et c'est même pour... Alors ce qui est très beau, c'est que c'est pour Benoît XVI, une des, pour lui, une des preuves de l'existence de Dieu, de l'existence de la vie éternelle, c'est la justice. On va en parler pendant des heures, mais il y a en nous une soif de justice. Il y a dans le cœur de l'homme une soif de justice. Et pourtant, le monde et la vie sont injustes, profondément injustes. La justice des hommes, elle est partielle et elle est partiale, elle n'est jamais satisfaisante, mais il y a dans le cœur de l'homme une soif de justice. C'est pas, enfin, c'est d'ailleurs, c'est marrant, hein, parce que sinon, il faudrait juste se satisfaire de l'injustice du monde. Mais on ne peut pas se... Même notre brave... comment il s'appelle ? Camus. Il est surprenant. Camus, il ne croit pas en Dieu. Mais je crois que j'avais retrouvé ça dans un passage où il s'interroge, il dit, mais c'est pas possible, parce qu'il y a quand même toujours en moi une soif de justice. Et cette soif de justice, elle est profondément inscrite dans le cœur de l'homme. Et ben, vous voyez, nous en France, on passe notre temps à râler, on dit, c'est pas juste, c'est pas, enfin, le français a particulièrement le sens de l'indignation. Mais... Eh bien, justement, la bonne nouvelle, c'est ce que dit Benoît XVI, une justice existe. La révocation de la souffrance passée existe. Le bien aura le dernier mot. Mais le bien veut dire aussi que les méchants et les bons n'auront pas place indistinctement au festin du royaume. Comme le disait un des héros de Dostoïevski, qui dit, mais c'est insupportable de se dire que tel assassin viendra à la table de la mère de l'enfant. Pas s'il ne s'est pas converti. Ouais, mais...
Je ne vous suis pas, je suis un peu provocateur, ouais, mais vous dites, Dieu est injuste. Quand on regarde la parabole des derniers serviteurs, il ne les paye pas comme on l'entend.
Lesquels ?
Je veux dire, quand on fait les ouvriers, pardon.
Ah, de la dernière heure.
Dieu est injuste. Dieu est injuste dans notre sens. Donc je trouve la soif de justice, j'entends la soif de justice, cette soif d'être avec en communion, de conversion, mais le bon, quand vous parlez, vous dites le dernier, celui, le meurtrier, il ne sera pas. Le larron, c'était comme celui, oui, le bon larron,
oui, mais
c'était à la base,
oui,
un enfoiré.
Oui,
mais il s'est retourné vers Dieu.
Oui, mais il sait, non, mais vous l'avez dit.
Oui, mais après, il y a la liberté de l'homme. Oui. Et donc, peut-être, je reviens, c'est juste parce que, oui, moi, vous m'avez, il y a plein de choses qui, enfin, c'est super, parce que vous avez bougé comme ça dans votre topo, mais voilà, je trouve que, voilà, attention, la justice, donc j'aime bien le fait de dire on attend cette soif de justice, mais la justice,
je vais aller
Dieu
plus loin,
n'est pas la justice.
Bien
pas
sûr,
la, dire,
mais la justice, oui, oui.
On sent ces bons larrons,
non,
et dire il y en a qui n'auront jamais, voilà, c'est la liberté,
non, mais,
de l'homme.
Oui,
Dieu
bien
s'arrête
sûr
là où l'homme ne,
oui,
veut pas. Enfin,
oui,
c'est comme ça que je vois un
tout
peu.
Tout à fait. Voilà, alors, la justice, je vais même aller, je vais aller un peu plus loin. Là, quand je parle d'une soif de justice, c'est qu'il y a dans le cœur de l'homme une soif de quelque chose... Quand je dis c'est pas un ordre, mais c'est que le mal soit réparé, quoi. Mon voisin m'a fait du mal, je veux faire du mal à mon voisin. Déjà, c'est pas mal. La loi du talion, c'est pas mal, déjà. Œil pour œil, dent pour dent, c'était une proportion. C'est mieux que il a frappé un de mes esclaves, j'ai tué toute sa famille. Vous voyez ce que je veux dire ?
Les mathématiques sociales, est-ce que c'est le bon rapport qualité ?
C'est un bon rapport.
Enfin, quand on fait
mais évidemment que la justice de Dieu va bien au-delà, parce que celui qui juge, c'est celui qui sauve. Et le Seigneur rend justice en sauvant, en fait. La justice divine, c'est une justice qui sauve. justice qui répare, une justice qui transforme. Là, je pourrais parler du purgatoire pendant des heures, parce qu'il y a un terme que j'aime, il y a un mot qu'on a un peu oublié dans la foi chrétienne, parce qu'il fait mal, c'est expiation. Et c'est vrai que, vous voyez, à Montlignon, c'est l'œuvre expiatoire pour la délivrance des âmes du purgatoire. Et j'avais beaucoup de mal avec cette... Donc on avait appelé ça la fraternité de Montlignon depuis quelques années, parce que expiation, c'est pas top. Et pourtant, je découvre que l'expiation, c'est la justice, si vous voulez, c'est la justice qui me transforme au plus profond de moi. Donc c'est la justice qui me rétablit, qui me guérit, à condition que je me laisse toucher par l'amour. Sinon, c'est une justice qui, de laquelle je m'exclus. Je pense que le bon larron, il a vécu mystérieusement cette expiation sur la croix. Et il s'est ouvert à la miséricorde de Dieu. Et il a, enfin, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, premier canonisé. Vous voyez, c'est je pense qu'accueillir le regard de Jésus, c'est le salut.
Si je reformule ce que vous dites, la soif de justice, c'est la soif d'être sauvé.
C'est la soif d'être sauvé.
Je reformule César.
Oui, alors, pour Dieu, sa soif de rendre justice, c'est la soif de nous sauver. Oui, nous, notre soif de justice, il faut qu'elle soit purifiée.
Dans la foi,
Il y a aussi autre chose.
Allez-y.
Notre soif de justice, il faut qu'elle soit purifiée aussi, parce que moi, je veux la justice, parce que un tel m'a fait du mal. Moi, j'ai plein d'ennemis qui m'ont fait du mal. Je veux la justice par rapport à mes ennemis. Mais en fait, si je veux la justice par rapport à mes ennemis, il faut que j'accepte aussi que la justice, c'est-à-dire la lumière de Dieu, se fasse en moi, en fait. Et c'est une justice qui manque. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et donc, c'est d'abord, je pense que cette justice de Dieu, avant de la demander pour les autres, il faut que je la reçoive pour moi. Seigneur, fais la vérité en moi. Cette justice, c'est une justice qui illumine, qui démasque le mal, qui éveille et qui vient me guérir. Pour moi, quand on parle de la justice, il y a plusieurs facettes de cette justice. Mais c'est une justice qui répare et qui sauve.
La soif d'être sauvé, et comment je sauve l'autre? Alors, on peut le voir comme ça, quand vous dites, parce que quand vous dites habiter, commencer, c'est aussi quand on est dans le conflit, c'est comment je vais vers l'autre de celui qui m'a blessé. Enfin, je dirais après. Ouais. Est-ce que dire comment nous aussi on est,
bien sûr, comment on participe,
on est des médiateurs,
comment on est des artisans de paix, comment on est des artisans de paix,
voilà, parce que ma soif intègre. J'avais oui. D'autres choses, mais qui m'ont, au tout début de votre topo, vous avez parlé de la solitude face à, alors il y a la mort, mais solitude, mais de la séparation. Voilà, je me posais la question, vous écoutant, que la question est peut-être celle de quand on ne peut pas prendre la place de l'autre, de l'altérité, et que de l'altérité de l'autre, je parle là dans la vie quotidienne, que ce soit dans la vie de couple, l'autre et l'autre, dans la vie de fraternité, vous pouvez vivre l'autre et l'autre, et que ça, de ne pas pouvoir être en communion avec l'autre, donc voilà, plus que la. Il y a la solitude devant la mort et la maladie, mais la mort-maladie, donc la mort brutale, après on peut être de quelqu'un qui a séparé, on est dans la souffrance, souffrance personnelle, on est seul de ça devant la page blanche. J'entendais moi au début l'altérité,
oui, bien sûr.
Ça faisait le lien avec ce que vous me proposiez à la fin, où à la fin vous avez dit, en fait vous êtes revenu plusieurs fois,
mais cette, si j'ai bien compris, cette altérité pour moi dans la mort elle n'existe plus.
Non mais attends, c'était le début de votre topo, c'était nous on est. On parle de l'altérité, parce que vous avez parlé de ne pas être à la place de l'autre. Donc là, c'est l'altérité concrète. D'accord, donc là, je parle de ce qu'on a dit. Et donc, cette altérité, cette souffrance originelle, si on peut le faire comme ça, là, ici-bas, là, maintenant, quelque part, vous parlez après, c'est pour voir si j'ai bien compris votre développement, c'est qu'après, en fait, on sera dans, pour moi, le mot communion. Et donc là, on va retrouver notre origine, donc on rentre dans la Trinité, et là on quitte, quand vous parlez de ces instants de communion, vous avez donné plein d'exemples, et je me disais, mais à tort ou à raison, pour voir si j'ai bien compris, c'est que la fin, cette altérité, cette séparation qu'on a en nous, qu'on vit avec les autres, on aura celui qu'on aspire, et on pourrait faire des cités, voilà, je vais être un autre, c'est mon axe originel, c'est d'être aspiré, d'être en Dieu, et qu'à la fin, peut-être que la plénitude, c'est d'être dans cette invitation de la Trinité avec Dieu, peut-être pas dans un face-à-face, moi, des fois en contemplation peut-être, pour nous dire d'être dedans.
Le face-à-face, c'est des mots, hein.
Non, mais je dis
c'est des mots pour essayer
pour
de dire quelque chose qui nous échappe.
Voilà,
mais, mais cette altérité, elle existe toujours.
Ouais.
Parce que Dieu lui-même est altérité.
Oui.
Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ouais. La question, c'est d'une altérité, alors déjà purifiée.
Communion, voilà.
Et alors ça, je pourrais parler du purgatoire, parce que le purgatoire purifie aussi nos relations humaines. Mais je pense aussi que, quand je dis la solitude, c'est que dans la mort, il y a quelque chose d'un mur où je ne peux pas aller avec l'autre. Et donc là, lui, le Christ, y est allé, il la traverse avec moi. Il est mort pour moi et il est mort avec moi. Et il vient me rejoindre là où plus personne ne peut me rejoindre. D'ailleurs, c'est tout le mystère inouï de l'incarnation qu'on médite et qu'on va méditer à Noël. C'est comment Dieu plonge dans l'humanité pour venir nous rejoindre dans ce qu'il y a de, dans notre misère, dans notre péché, et même dans la mort. Et rien ne lui est, il vient jusque là en fait.
Est-ce que j'ai une question?
Oui.
Je me demande, quand je meurs et que je sois, mettons, avec le Seigneur, et comment je peux vivre que quelqu'un que j'ai aimé, avec qui j'ai vécu, ait refusé toute sa vie et soit en enfer? C'est comment bien. Moi, ouais. qui suis, comment les liens demeurent et comment je peux survivre à cette perte de celui que j'aime.
C'est une vraie question qu'on nous pose toujours, et pour moi c'est mystérieux. Comment est-ce que je peux goûter à la fois une joie? Alors ensuite, ouais, mais je pourrais vous donner l'explication pour saint Thomas d'Aquin, mais c'est quand même très, c'est quand même très. Saint Thomas, ouais, je ne l'ai pas là, mais c'est de dire qu'en fait, dans l'enfer, se manifestera à la fois la miséricorde et la justice de Dieu, et que, je vous avoue, pour moi, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on peut être heureux, sachant que celui ou celle qu'on a aimé, je pense aussi qu'on acceptera aussi le choix fondamental de l'autre, et que ça ne nous empêche pas d'avoir une espèce de compassion, mais que ce sera aussi accepter ce qu'il a voulu de... Vous voyez, ce sera aussi nos relations, elles seront aussi, comment dire, elles seront aussi purifiées de ce qui est trop captateur, ou... Il y a quelque chose qui se fera sous le regard de Dieu, donc de manière plus ajustée. C'est ce que je pense aussi, vous voyez, par exemple, là encore, je vais pouvoir parler du purgatoire, parce que le purgatoire, Saint-Augustin disait, c'est aussi, quand il l'aborde à certaines reprises, il en parle comme d'un lieu, comme un temps de purification de nos relations familiales qui ne sont pas assez ajustées. Et parce que justement, y a des choses qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'être pardonnées, qui ont besoin d'être purifiées, mais qui ont aussi besoin d'être, vous savez, de permettre à l'autre d'être l'autre, en fait. Et je me dis qu'il y a quelque chose de l'amour de Dieu qui remet les choses à leur place. Et qui ne nous empêche pas d'aimer, d'accepter et malgré tout nous réjouir de la justice divine. Ça, c'est étrange.
Donc la conversion est possible après la mort, alors?
Non. C'est ce que... Parce que c'est parfois ce que certains, c'est, ouais.
Dans le purgatoire.
Non, alors le purgatoire, vous avez raison, c'est. Mais arrêtez, vous allez me faire parler d'un truc. Le purgatoire, c'est pas une conversion. Le purgatoire dit, je vais vous citer Benoît XVI aussi parce que ça j'aime bien. Donc je vous ai parlé, ça c'est Spécial Vie, magnifique. Si vous avez du temps même, lisez-le parce que c'est. Surtout que c'était l'année de l'espérance, mais lisez Spe Salvi, l'encyclique sur l'espérance, Sauvé dans l'espérance. Vous le trouvez sur Internet, c'est gratos. Et ce que je trouve très beau, voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Attendez, je vais vous le trouver parce que c'est quand même magnifique. J'en ai pour un instant, je vous retrouve. Ah, voilà. D'autre part, il peut y avoir des personnes très pures qui se sont laissées entièrement pénétrer par Dieu et qui par conséquent sont totalement ouvertes au prochain, personnes dans la communion avec Dieu, orientent dès maintenant l'être tout entier et dont le fait d'aller vers Dieu conduit seulement à l'accomplissement de ce qu'elles sont désormais. Ça, c'est pour les saints. Et Benoît continue, selon nos expériences, cependant, ni un cas ni l'autre ne sont la normalité dans l'existence. Chez la plupart des hommes, comme nous pouvons le penser, demeure présente au plus profond de leur être une ultime ouverture intérieure pour la vérité, pour l'amour et pour Dieu. Mais dans les choix concrets de vie, elle est recouverte depuis toujours, de nouveaux compromis avec le mal, beaucoup de saleté recouvre la pureté, dont cependant la soif demeure, et qui malgré cela émerge toujours de nouveau de toute bassesse et demeure présente dans l'âme. Qu'advient-il de tels individus lorsqu'ils comparaissent devant le juge? Toutes les choses sales qu'ils ont accumulées dans leur vie deviendra-t-elle d'un coup insignifiante? Ou qu'arrivera-t-il d'autre? Alors là, il parle du purgatoire, vous savez, de la parole de saint Paul qui dit que si nous sommes demeurés fermes sur le fondement, enfin, il cite saint Paul, je vais aller plus loin, et il parle du salut comme par le feu, et il continue... Ça, il faut que je vous le lise parce que c'est trop beau, c'est trop beau, mais je ne l'ai pas, évidemment. Et il termine. Bon, tant pis. Et il termine justement. Bah, il termine, mais je ne l'ai pas là, et il termine. Je trouve ça tellement beau. Il dit : en fin de compte, la saleté a déjà été brûlée dans la passion du Christ. Alors d'abord, il parle du purgatoire comme une heureuse souffrance. En fin de compte, cette saleté a déjà été brûlée dans la passion du Christ. Au moment du jugement, nous expérimentons et nous accueillons cette domination de son amour sur tout le mal dans le monde et en nous. La souffrance de l'amour devient notre salut et notre joie. Il est clair que la durée de cette brûlure, voilà, là il parle du purgatoire, le jugement de Dieu est espérance, aussi bien parce qu'il est justice que parce qu'il est grâce. S'il était seulement grâce, qui rend insignifiant tout ce qui est terrestre, Dieu resterait pour nous un débiteur de la réponse à la question concernant la justice. Question définitive pour nous face à l'histoire et face à Dieu lui-même. S'il était pure justice, il ne pourrait être à la fin pour nous qu'un motif de peur. L'incarnation de Dieu dans le Christ a tellement lié l'une et l'autre, justice et grâce, que la justice est établie avec fermeté. Nous attendons tous notre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Malgré cela, la grâce nous permet à tous d'espérer et d'aller plein de confiance à la rencontre du juge que nous connaissons comme notre avocat. C'est beau, hein ? Paf.
Mais alors, oui. Le non-croyant, puisque vous disiez que le damné est un être déchiré,
oui.
Parce que tout le pousse à aimer, oui. Dieu, mais en même temps, il le refuse. Mais le non-croyant qui vit sa vie, oui. Tranquille, juste, honnête, mais qui ne veut pas Dieu, il le rejette, mais enfin, il le rejette... Il ne peut pas adhérer à ça parce que intellectuellement, ça le dépasse, cette histoire de résurrection et de vie éternelle. Intellectuellement, ce n'est pas possible. C'est pas possible.
Intellectuellement, ça me dépasse aussi.
Il ne se sent pas déchiré actuellement, puisqu'il ne cherche pas l'amour de Dieu, puisque pour lui, Dieu, non.
En fait, il cherche le bonheur.
Donc, il n'y a pas de problème pour cette personne-là.
Oui, mais il cherche le bonheur. Ensuite, il l'appelle peut-être pas Dieu.
Mais je pense, oui, le bonheur.
On cherche tous le bonheur.
Oui, voilà. Le bonheur terrestre.
Ensuite, exactement, mais on cherche le bonheur. Ensuite, la question, c'est que ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Celui qui refusera de croire sera condamné, dit Jésus. Oui. Mais le refus de croire, qu'est-ce que ça veut dire?
On m'explique et je refuse, j'ai compris mais je refuse, et il y a on m'explique mais je comprends pas.
Et la question,
et donc je refuse aussi là.
Oui, la question, je refuse aussi parce que j'ai vu des chrétiens qui étaient incohérents avec le message de l'évangile. Je refuse aussi parce que je sais pas ce qu'est, parce que je me fais une mauvaise image de Dieu. Et il y a des dieux que je refuse. Quand on dit il a rappelé mon père à Dieu, enfin, quand une fille me dit je veux plus aller à la messe depuis qu'on m'a dit que Dieu avait rappelé mon père. Mais c'est quoi ce Dieu qui se réjouit de la mort de ses enfants? C'est insupportable. Donc, forcément, c'est un Dieu qu'on refuse. Un autre Dieu que je refuse, c'est le Dieu de Jésus-Christ, dans lequel plus Jésus souffre, plus plus il nous sauve. Mais ça, c'est quoi ce Dieu qui... c'est du masochisme, en fait. Donc, si vous voulez, effectivement, ce Dieu-là, heureux, c'est même Benoît XVI qui dit, celui qui refuse ce Dieu-là, mais il a raison de refuser un Dieu qui... un Dieu qui a soif de sang, quoi. C'est odieux. Un Dieu qui livre son fils. Mais c'est... vous savez, où de son père a baissé le courroux, mais qu'on chante à Noël, c'est très joli, mais c'est absolument pas catholique comme chant. C'est pas... Moi, j'aime beaucoup Minuit chrétien. Mais, et de son père a baissé le courroux, je vais vous frapper, mais il y a le fils qui... Ah, mais c'est... tout l'évangile nous dit que le père envoie le fils pour sauver le monde. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Ce que nous dit aussi le Concile Vatican II nous le rappelle. Alors d'abord, Saint Paul nous dit Dieu veut sauver tous les hommes. Ça, c'est une chose. Et ensuite, eh bien, si un homme, si ce n'est pas par faute de sa part, mais qu'il a suivi sa conscience, on peut espérer qu'il soit sauvé. La question, si vous voulez, la difficulté avec le salut, c'est qu'on a tendance à se dire, est-ce que ma tante Edmée est sauvée? Et est-ce que l'oncle machin qui était tordu est sauvé et en enfer? On veut mettre les gens dans des cases. Et les gens qui viennent à mon Légion me disent, mais qu'en est-il de mon fils s'est donné la mort, est-ce qu'il est sauvé? J'en sais rien. Moi, vous voyez, après les obsèques de ma grand-mère, qui était vraiment, je pense, une femme qui avait souffert, qui avait perdu son mari, qui avait perdu deux enfants, qui avait gardé la foi et qui jusqu'au bout était une femme rayonnante. Quand j'ai célébré ses obsèques, j'ai un cousin qui m'a dit, tu t'en fous, elle est au ciel. Je lui ai dit, j'en sais rien. Nous, on n'est pas là pour faire des pronostics. On est là pour dire au Seigneur, accueille-le. Et parfois, souvent, quand on parle de l'enfer et du purgatoire ou du paradis, on se dit, où est-ce qu'ils sont? Et on veut à tout prix les mettre dans des cases. Mais ce n'est pas notre mission de chrétien. Notre mission de chrétien, c'est d'abord de ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Jamais. C'est ce que le Concile le redit, c'est ce que dit la règle de Saint-Benoît, c'est vraiment ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Et donc notre mission, c'est de prier. Seigneur, ouais. Vous voyez, donc je ne sais pas où sont ces non-croyants, mais je prie pour eux. Et mon rôle de chrétien, c'est de prier pour eux. Et je prie. Enfin, vous voyez, c'est, notre espérance, c'est de prier, c'est de nous adresser au Seigneur. Et pas de... Parfois, on veut faire des statistiques, on veut mettre... En fait, notre mission, c'est de prier pour. Confiant dans le Seigneur. Oui.
Oui, vous avez commencé votre topo en disant à peu de choses près, le chrétien par rapport au non-croyant, il a un avenir. C'est bien. Et je me demande si, en fait, on a beaucoup de mal à comprendre toutes ces notions que vous avez évoquées fort brillamment. Parce qu'on est inscrit dans le temps et qu'on s'occupe trop de ça, quoi. Et que finalement,
vous avez tout à fait raison, mais en plus, on est touché aussi par une époque qui est marquée par le présentisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une époque qui a tout coupé du... Enfin, c'est les sociologues qui écrivent ça, qui s'est coupé du passé. C'est-à-dire que le passé, il est disqualifié. C'est le wokisme, on renverse la table, il faut être disruptif. Donc on est très critique vis-à-vis du passé parce que effectivement on a parfois trop idéalisé le passé et on se rend compte que il avait aussi son lot de péchés d'injustice. L'autre truc c'est que et en même temps l'avenir est complètement flippant. Crise climatique, crise machin, crise politique, crise tout ça. Donc je pense que aujourd'hui l'homme contemporain il est encore plus enferré dans le présent. Parce qu'il n'y a plus d'avenir. Et justement, le chrétien dit, mais si, il y a un avenir. L'avenir, il appartient au Christ. D'ailleurs, c'est ce que dit Dieu par l'intermédiaire du prophète Jérémie, je vous donnerai un avenir. Je trouve ça très beau, je vous donnerai un avenir. Le Dieu des chrétiens est un Dieu qui donne un avenir. Le Christ, dans l'Évangile, il donne un avenir à Zachée, il donne un avenir à la Samaritaine, il donne un avenir à la femme adultère. À chaque fois que Jésus rencontre l'aveugle-né, les lépreux, il leur redonne un avenir. Donc nous avons... Ce que je veux dire, c'est que quand les chrétiens sont ceux qui ont une espérance. C'est-à-dire que l'avenir appartient à Dieu. Et je pense que c'est pas seulement de penser à la vie éternelle, au ciel, c'est juste déjà la promesse du Christ de son retour. On le confesse, on le dit à chaque fois. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Au cours de la messe, nous proclamons ta mort, nous annonçons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En fait, il faut se rappeler juste que le chrétien est celui qui a un but, qui a un avenir. Et ce but, c'est le Christ. Et justement, je pense que un des enjeux pour nous, c'est de montrer que l'avenir est bon parce qu'il appartient à Dieu. Ce n'est pas de l'angélisme, hein. Évidemment que l'avenir est compliqué, mais comme le présent est compliqué, comme le passé est compliqué. Hein. Et quand j'entends des gens me dire « on vit une époque terrible, terrible, terrible », là on vient de béatifier 50 martyrs, je pense que l'époque n'était pas forcément plus... mieux. Hein. J'ai un ami prêtre qui a fait la guerre d'Algérie, qui est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, il était gamin, et qui me dit « c'est terrible cette époque, c'est... attends, t'as vu ce que t'as vécu ?» Mais justement, le chrétien, c'est celui qui dit « l'avenir est à Dieu ». Il y a une justice, il y a un avenir, et il y a un salut.
Est-ce que cet avenir s'inscrit dans le temps tel que nous,
On attend.
La conscience du temps.
Ben oui, oui. Mais alors, vous avez raison. En même temps, il est dans ce temps-là, et en même temps, il y a quelque chose d'une rupture. Mais on attend. C'est ce que... vous savez, c'est toutes les paroles du Christ au mois de novembre. Hein, quand cela arrivera, relevez la tête, votre rédemption approche. C'est le cri du livre de l'Apocalypse, « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Donc le chrétien, il est à la fois dans « déjà » et « pas encore ». Il est à la fois dans « j'ai reçu », « nous avons reçu la victoire définitive à Pâques ». C'est ça que nous fêtons à Pâques. C'est pour ça que c'est une... La joie de Pâques, c'est pas juste, enfin, c'est une joie profonde, c'est de se dire le Christ a vaincu la mort. Mais nous attendons l'accomplissement définitif de cette victoire. Donc le chrétien, il est à la fois dans aujourd'hui et dans une attente. Et le jour où il oublie, c'est toutes les paroles du Christ, veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, c'est la parabole des vierges sages et des vierges folles. En fait, le Christ nous passe son temps à nous dire « veillez ». Parce que justement, comment dire, pour pas justement nous appesantir sur le présent. Et en même temps, de vivre dans le présent. C'est la condition un peu compliquée de vie du chrétien, c'est à la fois vivre pleinement dans le présent et pas être déconnecté. Et en même temps, le chrétien est celui qui sait qu'il est en pèlerinage. Il a un but.
Merci.
D'ailleurs, c'est tout ce qu'on fait pendant l'Avent. Pendant l'Avent, on mime trois choses. C'est très intéressant. On mime à la fois l'attente du peuple d'Israël d'un sauveur. On attend, nous aussi, la grâce de Noël, parce qu'on croit quand même qu'il y a une grâce particulière à Noël pour moi cette année. Une grâce unique qui vient me rejoindre dans ce que je vis, hein, pas un truc... Et en même temps, on se rappelle que l'Église est en attente. Soyez prêts à rendre compte de votre espérance, c'est ce que dit saint Paul, en toute occasion.
Merci.
Merci.